Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 juin 2022. Content de vous retrouver après ces presque 3 jours d'absence, si on oublie le Swiss Bliss de samedi dernier. Une semaine qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson aux États-Unis pour des raisons de chiffres de l'emploi, et puis une semaine qui a commencé un petit peu dans le pâté entre deux, avec pas mal de choses qui sont toujours très connectées avec ce qui s'est passé vendredi au niveau des chiffres, et puis aussi avec les multiples déclarations de monsieur Elon Musk et les déclarations d'Apple sur les nouvelles choses qui sont en train d'arriver dans le marché. Bref, en gros, pas mal de trucs. Et on a à nouveau un marché américain qui termine un petit peu, positif, mais quand même un tout petit peu déprimé. C'est en tout cas le sentiment que ça donne. Ce matin, les futurs sont largement en baisse de nouveau. L'Asie ne fait pas grand-chose. Le pétrole continue de monter. Et puis les Européens ont l'air d'être complètement déconnectés de la réalité, puisque ça continue d'aller plutôt pas mal sur l'Europe. On a l'impression que finalement, après des années et des années d'interdépendance avec les Américains, on est en train de se décorréler. Mais encore, c'est pas terminé, c'est pas tout à fait gagné. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, en tout cas, ces derniers jours, c'est que l'Europe a l'air d'aller un tout petit peu mieux que les Américains. Alors on est obligé de revenir un tout petit peu sur les chiffres de l'emploi de vendredi dernier. Donc grosso modo 390 000 créations d'emplois pour le mois de mai, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si on tient compte du fait que les analystes attendaient 328 000 créations d'emplois et que le mois dernier, en avril, on est sorti à quelque chose comme 430 et des poussières. Donc grosso modo, c'est une bonne nouvelle. La problématique, c'est que quand on a une bonne nouvelle sur les chiffres de l'emploi, d'habitude, eh bien, c'est simplement une bonne nouvelle, mais comme dans l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas compter sur la même chose que d'habitude. Puisqu'aujourd'hui, si vous avez une bonne nouvelle qui veut dire que l'économie est en pleine forme, c'est bien, parce que ça soutient le fait que la Fed est en train de monter les taux, l'économie est en pleine forme, donc elle n'est pas en train de caler, mais si elle n'est pas en train de caler et si elle est trop forte, attention, parce que forcément, ça peut faire monter les prix, donc monter l'inflation, donc quelque chose qui est un tout petit peu inquiétant quand même. Donc c'est un petit peu ce qu'on en a retiré, en tout cas vendredi dernier, aux États-Unis. On s'est dit, oui, s'il y a beaucoup d'emplois qui se créent, et en plus, on voit que les salaires sont en train d'augmenter, ça veut dire que si vous gagnez plus, naturellement, vous allez dépenser un petit peu plus, donc du coup, soutenir encore un peu cette foutue inflation. Et puis en plus, si vous regardez la tronche et la taille finalement, enfin le prix du baril en ce moment, eh bien forcément, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour se dire qu'il y a une partie de votre augmentation de salaire qui va passer directement dans les mains des pétroliers, puisque le baril ce matin est à 120$ plus ou moins sur le WTI. Le Brent est déjà passé en-dessus des 120, donc on continue dans la même tendance et visiblement, on n'a pas l'impression que finalement le baril va s'arrêter de monter. C'est assez intéressant parce que ça n'a rien à voir directement avec le baril, mais on retiendra que monsieur Jim Cramer a dit hier soir aux États-Unis qu'il fallait acheter les pétrolières sur faiblesse. C'est bien, le seul truc c'est que les pétrolières ne baissent plus. Et donc ça continue, ça fait que monter, tout le monde est super bullish sur le pétrole. Je vous ai déjà expliqué la semaine dernière pourquoi ça devrait continuer encore de monter. Et il y a une espèce de conviction générale que ça va continuer à monter encore et encore. D'ailleurs, ça commence à me faire un tout petit peu peur parce que c'est tellement évident que ça va continuer à monter que tout le monde est convaincu que ça va continuer à monter. Et généralement, quand tout le monde est convaincu, c'est pas ce qui se passe. Enfin bref. Affaire à suivre pour l'instant, néanmoins, inflation est toujours un problème, les chiffres de l'emploi qui sont sortis la semaine dernière étaient un problème par rapport à l'inflation, et donc on est de nouveau très très stressé autour de tout ça, et on a l'impression que la semaine est déjà dans pleine hésitation, à voir ce matin les futurs en grosse déprime, moins 0,5% ce matin pour commencer, il n'y a pas ou peu de nouvelles, on reste toujours assez fixé sur les déclarations de monsieur Elon Musk et son super bad feeling de la semaine dernière, qui disait qu'il avait vraiment un sentiment assez mauvais sur l'économie, d'ailleurs dans la foulée il a viré 10% de son staff, il s'est fait remonter les bretelles par Biden, mais ça doit lui faire à peu près autant d'effet qu'une piqûre de moustique sur le cul d'un éléphant pour l'instant. Donc on est vraiment toujours un peu dans cette optique de dire qu'est-ce qui va se passer, et c'est clair qu'on est prêt à entendre tout et n'importe quoi. Il suffit que monsieur Elon Musk, qui, je le rappelle, à la base n'est ni économiste ni analyste financier, ce qui n'est pas forcément une référence aujourd'hui pour être sûr et garantir ce qu'on dit, mais en tous les cas, quelque part, on a peut-être quand même un tout petit peu plus envie d'écouter un Ray Dalio, un Rubini, un Grand Tam, plutôt qu'un Elon Musk sur l'état global de l'économie. Même si lui, il a une vision très claire de l'économie, par rapport aux voitures électriques, mais pas forcément au reste. Mais enfin, globalement, il a un mauvais feeling, et aujourd'hui, comme on se dit que Monsieur Elon Musk ne fait jamais d'erreur, le marché est quand même un tout petit peu crispé par rapport à ça. Elon Musk, toujours, eh bien, puisque hier, il a de nouveau fait parler de lui, encore une fois, là, il était depuis quelques jours, il était sur la Côte d'Azur, apparemment, il a rencontré une nouvelle nana, donc du coup, il était sur la Côte d'Azur en week-end pendant quelques jours, enfin, un week-end étendu, on va dire, et depuis, il est revenu, donc maintenant, il a laissé entendre qu'il était plus du tout sûr de vouloir acheter Twitter, parce qu'apparemment, la société fait des pieds et des mains, ou en tout cas, met les pieds contre le mur, pour ne pas lui communiquer les chiffres véridiques des fake accounts chez Twitter. Donc du coup, il est en train d'hésiter. Résultat, le titre baissait un tout petit peu hier soir aux États-Unis. On a quand même l'impression que globalement, plus personne y croit vraiment à ce takeover. Mais en même temps, comme il n'a pas dit vraiment non à chaque fois qu'il dit « ouais, j'hésite un peu », le titre baissote, mais on sent que c'est plus vraiment la grosse conviction. Il faut quand même signaler que quand on regarde où est le chart aujourd'hui, où est Twitter, où se traite Twitter, c'est plus ou moins au même niveau que quand Elon Musk a annoncé sa prise de participation de 9% dans Twitter, et on n'arrive plus vraiment à décoller de ce niveau-là. Il faudra vraiment quelque chose de plus pour pouvoir justifier finalement que le takeover se fasse. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, n'oublions pas que quand le takeover a été annoncé à 54 et des poussières, le marché était beaucoup, beaucoup plus haut et beaucoup plus confortable, ce qui veut dire qu'il est en train de payer clairement une prime et que si aujourd'hui il devait sortir du deal en payant 1 milliard de dédite, franchement, ça serait pas cher payé par rapport à la prime qu'il paye aujourd'hui du marché. Ou alors, il est plus intelligent et à force de dire « non, je vais pas acheter », peut-être qu'il profite pour accumuler encore un petit peu, qui sait ? C'est pas son genre, mais on ne sait jamais, ça pourrait se produire. Néanmoins, pour l'instant, gros désintérêt sur Twitter. Donc du coup, ça rend service à Tesla, puisque finalement, quand on dit si Musk ne fera pas Twitter, il va peut-être se concentrer un petit peu plus sur Tesla. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont en train de se poser des questions en se disant « mais est-ce qu'il va vraiment continuer à gérer sa boîte correctement ?» Sachant qu'il court quand même 150 lièvres à la fois, et qu'à bout d'un moment, il peut pas non plus se démultiplier. Puis apparemment, même dans son monde à lui, eh bien, 24 heures font toujours 24 heures, et vous pouvez pas non plus rajouter des modules exprès à côté, même si vous pesez 225 milliards de dollars sur votre compte en banque. Dans les autres nouvelles qu'il faut retenir et qui vont pas forcément changer la face du monde, mais on notera quand même que Apple a annoncé hier soir un nouveau soft pour l'iOS, je sais plus combien, un MacBook Air, un MacBook Pro avec des nouvelles puces dedans. Ils ont aussi annoncé un produit qui ressemble à ce que fait Affirm, donc ça veut dire acheter aujourd'hui, payer plus tard. En gros, vous pourrez acheter à crédit chez Apple et c'est eux qui vous feront le crédit. Donc ils sont en train de bouffer sur les plates-bandes des autres comme Affirm. Affirm n'a pas super bien supporté la nouvelle hier puisque le titre perdait 6% dans la foulée. Il est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'aller acheter quelque chose mais vous devez passer par une boîte externe comme Affirm, bah ça leur fait du business. Si vous allez acheter un Mac chez Apple et vous pouvez tout faire chez eux, eh bien ils vont perdre pas mal de business aussi. Et donc c'est aussi la tendance qui risque bien de se développer ces prochains temps. On notera aussi que dans la foulée, Amazon a donc fait son split. Hein. On en a beaucoup parlé avant. On s'est dit « ouais, c'est super, ça va tout changer ». Puis finalement, Amazon a bien monté par rapport au plus bas récent, mais ça, c'est juste avec le marché. Mais finalement, par rapport à l'annonce du split, ça n'a pas été très, très relutif, in fine. Et on commence à dire « oui, mais c'était pas très important ». Alors, je me rappelle, il y a quelques semaines, où on était tous en train de se dire « ouais, c'est la super nouvelle de l'année, apparemment, faut acheter Amazon, parce que quand ils font un split, ça monte à tous les coups ». Bon, en fait, c'était un petit peu une question de timing, encore une fois, ça n'a pas très bien marché. Mais en tous les cas, c'est assez rigolo comme aujourd'hui, les gens se dédisent en disant « non, mais pas du tout, alors un split, ça marche jamais, c'est pas bien ». On a un petit peu tourné la veste. Néanmoins, Amazon a splitté, il faut le retenir quand même. Il y a une super nouvelle vachement intéressante, fantastique et géniale, eh bien, c'est que DeLorean devrait peut-être, éventuellement, c'est pas sûr, mais en tout cas, on en parle à Wall Street, faire une IPO pour lancer la production de ça. Ça, c'est la nouvelle DeLorean électrique qui est un peu l'héritière de la DeLorean de Retour vers le futur. Elle est très très belle en photo, elle est très très belle en prototype. Il se pourrait qu'il se lance dans une IPO pour développer ce truc pour de vrai. En tout cas, quand je vois la voiture et quand je vois ce qu'elle représente au niveau image globale, eh bien, je me dis que si je dois acheter une fois dans ma vie une voiture électrique, ce sera peut-être celle-là. Voilà, autrement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y aura encore quelques chiffres qui vont tomber cet après-midi. Le trade balance américain, entre autres, le sentiment des investisseurs en Europe. Et le sentiment des investisseurs en Europe est assez et sera assez intéressant à observer, puisque finalement, on voit que les taux sont en train de remonter aux États-Unis. On a encore vu que le 10 ans a tapé les 3% hier aux États-Unis. Donc, c'est un niveau de stress, finalement, pour les marchés equity. Et puis, ben, de l'autre côté, on va avoir le sentiment des investisseurs en Europe qui sera publié aujourd'hui. C'est jamais très important. Mais on commence quand même à se poser beaucoup de questions par rapport à l'inflation et au niveau des taux à la Banque Centrale Européenne. Quand on regarde un petit peu où sont les chiffres de l'inflation, on se souvient la semaine dernière que l'Allemagne a sorti des chiffres qui n'avaient jamais été aussi hauts depuis 50 ans, et la BCE est toujours le cul sur sa chaise en se disant « Oui, mais nous, tranquille, on fera ça au mois de juillet quand tout le monde est à Saint-Tropez en vacances. » Et on a un peu l'impression qu'ils sont en train de se retrouver en dehors, enfin derrière la courbe, si on veut dire. Les Américains ont dit déjà qu'ils sont en retard, mais on a vraiment l'impression que la BCE, même si les marchés equity européens vont bien aujourd'hui, puisqu'on ne monte pas les taux pour l'instant, et puis d'autre côté, ben, on sent que la BCE est en train de prendre gentiment du retard, et on se demande comment est-ce qu'ils vont faire pour rattraper le train une fois que ce sera parti. On espère juste qu'ils vont pas commencer à monter les taux à cause du 1%, ce qui pourrait créer quelques petits tremblements de terre sur les marchés boursiers européens. On va observer ces deux chiffres, donc le trade balance aux États-Unis et le sentiment des investisseurs en Europe, et puis on va pouvoir commencer, en tout cas pour nous, vu qu'on était tous plus ou moins en congé hier, une vraie semaine. Moi, d'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote francophone qui a passé les 18 000 abonnés hier. Merci beaucoup à tous. On continue, le chemin est encore long jusqu'aux 25 000. Et puis, autrement, eh bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis de revenir demain parce que demain, je serai de nouveau là pour voir un petit peu ce qui s'est passé en ce mardi 7 juin 2022. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.